Le journal Antoine Maret. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. 8 morts, 110 blessés, c'est le très lourd bilan après une explosion ce matin dans une école coranique au Pakistan. L'attentat n'a pas encore été revendiqué. Aux États-Unis, sans surprise, le Sénat a voté et confirmé la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. L'institution temple du droit américain bascule et sans doute pour longtemps du côté des conservateurs. La colère dans les pays musulmans après les déclarations d'Emmanuel Macron en faveur des caricatures. Le mécontentement s'exprime de façon différente selon les pays. Nous en parlerons avec notre invité du journal, Bernard Godard. Il a été chargé des relations avec la culte musulman au sein du ministère de l'Intérieur entre 1997 et 2014. Un nouveau conseil de défense ce matin pour évoquer la situation sanitaire en France. Le Covid poursuit sa progression malgré le couvre-feu et donc le gouvernement prépare un nouveau durcissement des restrictions. Nous analyserons les différentes hypothèses qui sont sur la table. 8 morts et au moins 110 blessés dans une explosion ce matin à Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. La déflagration est survenue dans une madrassa, une école coranique, alors que des centaines d'étudiants assistaient à un cours de religion. La bombe était placée dans un sac à dos selon la police locale. Aucun groupe terroriste n'a revendiqué l'attentat pour l'instant. Les précisions à Islamabad de la correspondante de RFI Sonia Ghezali.
Des débris de verre, des coussins, des vêtements déchiquetés jonchent le sol de la madrasa Jamia Zubayria. Les traces de sang sont partout. Au plafond, plusieurs ventilateurs ont été arrachés par l'explosion. Un religieux donnait un cours sur le Coran retransmis en direct sur Facebook quand l'explosion a retenti. Selon des sources sécuritaires, la bombe qui pesait entre 4 et 5 kilos se trouvait dans un sac à dos déposé par un homme qui a quitté les lieux avant la déflagration. Des centaines d'étudiants étaient présents dans la madrasa au moment de l'explosion qui est survenue dans la partie réservée aux adultes. La plupart des victimes ont plus de 20 ans, mais des enfants figurent également parmi les victimes. Cet attentat rompt une période de calme qui a duré plusieurs mois à Peshawar, mais la ville faisait l'objet d'une attention particulière depuis plusieurs jours par les services de sécurité. Des menaces d'attentats circulaient. Un membre du Parlement dans la région indique que les autorités ont été alertées contre le regroupement des terroristes dans la région, faisant référence notamment aux talibans pakistanais actifs dans cette zone. Le groupe s'était attaqué à une école de Peshawar en 2014, tuant plus de 150 personnes, en majorité des enfants.
Au Mali, l'ouverture aujourd'hui du procès des auteurs présumés des attentats de 2015 à Bamako. Ils avaient visé l'hôtel Radisson Blue et le restaurant La Terrasse. Le principal accusé est une figure du djihadisme au Sahel, le mauritanien Fawaz Ould Ahmed. Les associations de victimes craignaient qu'il soit absent au procès. Le bruit courait qu'il avait été libéré avec d'autres détenus en échange de 4 otages. Kaourou Magassa, vous êtes notre correspondant à Bamako et ce matin, vous l'avez constaté, Fawaz Ould Ahmed était bien présent dans le box des accusés.
Oui, effectivement, il était bien. Il était vêtu d'un boubou gris, il porte la barbie hirsute. Alors là, je viens de quitter la salle où les arrêts de renvoi, c'est-à-dire la déclaration de ce qui est reproché aux accusés, vient d'être lu. Cette déclaration acte finalement le fait que Fawad Ould Ahmed est inculpé pour complicité d'assassinat, coups et blessures volontaires aggravées, détention d'armes et explosifs en lien avec une entreprise terroriste et financement du terrorisme. Donc vous l'avez rappelé en titre, il y avait d'énormes rumeurs sur le fait qu'il puisse avoir été libéré en échange des 4 otages, dont la française Sophie Petronin et le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé. Et les 2 attentats auxquels il aurait participé ont un bilan total de 25 morts. Ici à Bamako, des dizaines de parties civiles, surtout maliennes, sont présentes au tribunal et le procès est également retransmis en direct à Paris dans le cadre d'une coopération judiciaire entre le Mali et la France et pour que les parties civiles, notamment françaises et belges, puissent y accéder.
Merci à vous, Kaourou Magassa, en direct de Bamako. Un missionnaire américain a été enlevé dans le sud du Niger, à Massalata. Il vivait là-bas depuis plusieurs années avec sa famille. Aucun autre détail sur les circonstances du rapt n'était connu dans l'immédiat. Le Niger, pays sahélien très pauvre, est en proie à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait des centaines de morts. Avec le Mali et le Burkina Faso voisins, il est au cœur d'une immense zone écumée par des groupes djihadistes se revendiquant de l'État islamique ou de son rival Al-Qaïda au Maghreb islamique. La colère gronde en Italie où une nouvelle vague de restrictions anti-pandémie se heurte à l'exaspération d'une partie de la population. Une nouvelle salve de mesures destinées à freiner l'épidémie est mal accueillie. Des milliers de personnes ont manifesté hier soir dans plusieurs villes du pays contre la fermeture des restaurants et des bars à partir de 18h et de tous les théâtres, cinémas et salles de sport pendant un mois. Bonsoir Olivier Tosseri.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant à Rome. Des incidents violents se sont notamment produits à Milan et Turin.
Exactement, les deux villes où les incidents les plus violents ont éclaté, à chaque fois des scènes identiques, jets de cocktails Molotov, charges de la police anti-émeute, vitrines de magasins vandalisées, mobilier urbain incendié, le virus de la colère s'empare des places, titré la plupart des quotidiens italiens aujourd'hui, après un week-end de rassemblements violents à Naples et à Rome, c'est la colère qui s'empare de milliers de manifestants à travers tout le pays, de Trieste à Catane, de Bari, à Palerme, les revendications sont à chaque fois les mêmes. Refus des mesures de demi-confinement jugées trop draconiennes et qui menacent les emplois. D'après les partenaires sociaux, 350 000 salariés sont menacés de perdre leur travail et 50 000 bars et restaurants risquent de fermer définitivement. Giuseppe Conte a dit comprendre la colère et la frustration, mais veut préserver à la fois la santé et l'économie. Il doit annoncer cet après-midi des mesures de soutien au secteur d'activité les plus touchés par les mesures de restriction, mais il a répété qu'il ne reviendrait pas sur ces mesures.
Merci Olivier Tosseri aux États-Unis, pays très touché par le Covid-19. Le Sénat a voté et confirmé la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. L'institution temple du droit américain bascule et sans doute pour longtemps du côté des conservateurs. Donald Trump a tenu sa promesse avec 3 juges nommés en 4 ans. Une immense victoire pour le président américain qui en avait bien besoin à 8 jours de la présidentielle. À Washington, Loïc Loury.
52 votes contre 48, Amy Coney Barrett s'était écrit rejoint la Cour suprême. La juge ultra-conservatrice a prêté serment sans attendre à la Maison-Blanche avant de prendre la parole.
Le serment que je fais signifie par essence que je ferai mon travail indépendamment des politiques partisanes et de mes propres croyances.
C'est pourtant bien ce qu'espèrent les chrétiens évangéliques, notamment qui s'étaient rassemblés face à la Cour suprême. Ils comptent sur la juge Barrett pour obtenir une réduction drastique du droit à l'avortement, comme Spencer, un étudiant aux idées bien arrêtées. Oui, je crois que ça pourrait se faire. C'est l'une des crises des droits humains les plus importantes de cette génération, le droit de tuer des bébés innocents parce qu'ils ne sont pas désirés. Et si c'est loin d'être fait, le motif d'inquiétude est réel pour Sansar, qui proteste déguisée en servante écarlate.
Les femmes vont perdre leur vie, piégées dans des relations dont elles ne peuvent pas sortir, forcées d'avoir des enfants contre leur gré ou de mourir en essayant d'avorter.
Le droit, la religion, mais surtout la politique pour Donald Trump, qui remobilise cette frange très croyante de sa base, 1 électeur sur 4 dont il ne pourra pas se passer pour être réélu.
Un nouveau coup de théâtre sur la scène bolivienne après les élections la semaine dernière qui ont vu le candidat du mouvement vers le socialisme gagner haut la main. Evo Morales, exilé en Argentine, n'est plus poursuivi par la justice bolivienne et pourra donc revenir dans son pays. Alice Campagnol est à la passe pour France Culture.
Le mandat d'arrêt contre Evo Morales a été annulé hier par la justice bolivienne. En décembre 2019, l'actuel gouvernement intérimaire avait déposé plainte contre l'ex-président pour sédition et terrorisme. En novembre dernier, alors qu'Evo Morales a quitté le pays, une conversation téléphonique filtre sur les réseaux sociaux. On y entend un dirigeant producteur de coca parler avec celui qui semble être Evo Morales. Les deux interlocuteurs discutent de l'organisation du siège des villes pour que les vivres n'y entrent pas, entre autres. L'ex-président, alors en dehors du pays, a donc été accusé de terrorisme, mais il n'aurait pas été notifié personnellement par la justice bolivienne aux différentes audiences et c'est ainsi que l'imputation a été complètement abandonnée et le mandat d'arrêt annulé. Sans notification, son droit à la défense s'est vu bafoué, mais en réalité la question de l'indépendance de la justice se pose car un nouveau président vient d'être élu. Il appartient au parti d'Evo Morales et ce dernier pourra donc ainsi revenir sur le territoire bolivien sans être inquiété.
La colère dans les pays musulmans après les déclarations d'Emmanuel Macron en faveur des caricatures, campagne de boycott des produits français, messages sur Twitter et Facebook hostiles à la France, manœuvres diplomatiques, manifestations. le mécontentement s'exprime de façon différente selon les pays, Valérie Crova.
C'est à Dhaka, au Bangladesh, que la manifestation a été la plus virulente. Des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers l'ambassade de France avant d'être stoppées par des policiers qui avaient érigé des barrages. Organisée par l'un des plus importants partis islamistes bangladais, la marche était partie de la principale mosquée de la capitale. L'un des responsables du parti a demandé au gouvernement du Bangladesh de mettre dehors l'ambassadeur de France, tandis qu'un autre dirigeant islamiste a menacé de mettre à terre chaque brique de l'ambassade si ce dernier n'était pas renvoyé. Des slogans appelant à punir Emmanuel Macron, qualifié d'adorateur de Satan, ont été lancés. À Kuala Lumpur, les responsables du PAS, le parti islamiste qui représente la troisième force politique de Malaisie, ont remis une lettre à l'ambassade demandant que la France arrête de considérer l'islam comme une religion violente. Un appel au boycott des produits français a par ailleurs été lancé. En Iran, le chargé d'affaires français a été convoqué. Une manifestation est prévue demain devant l'ambassade de France à Téhéran. Des manifestations sont également prévues cet après-midi à Ramallah, en Cisjordanie, mais aussi à Amman, la capitale jordanienne, près de l'ambassade de France, pour protester contre les propos d'Emmanuel Macron.
Invité de ce journal, Bernard Godard. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez été chargé des relations avec le culte musulman au sein du ministère de l'Intérieur entre 1997 et 2014. Vous avez pu assister dans le passé à d'autres campagnes d'hostilité dans des pays musulmans à l'égard de la France. Est-ce que cette campagne se distingue des autres ?
La première campagne violente qui avait eu lieu, c'était en 2004 lors de le vote de la loi contre les signes religieux à l'école. Et c'est vrai que le monde musulman s'était un peu enflammé et il y avait eu jusqu'en Indonésie des manifestations assez virulentes. Là, si vous voulez, les choses sont un peu de la même nature, en particulier pour vous citer l'exemple du Bangladesh, sauf qu'il y a comme une aggravation des relations du président Erdogan avec le président Macron, qui en rajoute un petit peu, et que donc effectivement, et qu'on voit plus nettement dans cette affaire la mobilisation des partis islamistes, vous parlez du PAS. En Malaisie, mais on peut dire aussi que, par exemple, la mobilisation en Turquie même, au Koweït ou au Qatar, on a les frères musulmans à la manœuvre. Donc, du coup, c'est nettement beaucoup plus encadré politiquement que ça l'était en 2004, et ça, avec l'affaire avec le boycott, on rajoute un petit peu une once de menace sur la France. Et là, on peut dire que effectivement, ça s'enflamme vite, au point que des pays comme par exemple le Maroc ou l'Algérie, les dirigeants sont obligés de se prononcer, non pas de suivre leur population, mais d'avoir un avis, ce qui quand même marque une gêne de la part des dirigeants du monde musulman.
Alors, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, c'est intense, c'est rapide, parce que les caricatures de Mahomet, elles ont été publiées par Charlie pour la première fois en 2006.
Oui.
Et là, les réactions sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus intenses. Qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, bien sûr, parce que ça se cumule avec le discours du président Macron, le discours des Mureaux, où il y avait eu des petites phrases, et en particulier la crise du monde arabe. Bon, déjà à l'époque, si vous voulez, ça avait provoqué une réaction dans l'ensemble du monde arabe, mais surtout à l'université d'Al-Azhar, qui est quand même le repère où l'imam d'Al-Azhar avait dit « Mais non, mais qu'est-ce que c'est cette phrase ? Comment le président de la République française se mêle un petit peu de la situation de l'islam ?» Il ne s'agit pas de géopolitique, de rapport entre États, il s'agit de la religion. Donc vous voyez, il y avait quand même une amorce qui avait été faite lors de ce discours, et après un certain nombre de déclarations sur le séparatisme, etc. Bon, bref, ça en était resté là. Mais, si vous voulez, je crois que c'est plutôt la réitération. C'est un moment que vous avez eu il est évident qu'en 2015, lorsqu'il y a eu les attentats, personne dans le monde musulman n'avait mis en cause si éventuellement il y avait eu des republications ou quoi. Personne, vu l'importance, vu la gravité, l'émotion qui avait été provoquée par l'attentat, ça, il n'y avait pas eu de ce genre de réaction. Mais là, c'est vrai qu'il y a une première réédition au moment du procès de Charlie Hebdo, quand ça a repris, il y a plus d'un mois. Et ça a fusé. Et là, c'est en train de réapparaître, surtout pour la parole officielle du président qui dit qu'il faut publier les caricatures, par exemple de la maire de Paris qui dit qu'il faut afficher des caricatures ou qu'il faut les montrer aux élèves dans les écoles. C'est pas de la même nature que, par exemple, l'interdiction du voile ou voire même la parution dans Charlie Hebdo des caricatures en 2006. Hein.
On est dans une autre nature. Si on vous suit, c'est plus le discours officiel sur les caricatures que les caricatures elles-mêmes.
Bah, si vous voulez, ça a un peu allumé le feu en plus. Disons que déjà, dès le départ, bon, il n'y avait pas de raison de dire... mais là, si vous voulez, les paroles présidentielles suivies par une grande partie de l'opinion en France, hein, pour le reconnaître, hein, de la droite jusqu'à la gauche, si vous voulez, ça a un impact beaucoup plus fort dans le monde musulman. Avec, en rajoutant, mais alors la variante, si vous voulez, l'action du président Erdogan, qui est aussi dans ce sens, mais qui recèle d'autres ressorts, quoi.
Et l'assassinat de Samuel Paty qui a précédé ce discours n'a pas été de nature, on va dire, à mesurer ce discours, cette réaction hostile de certains pays.
Non, mais le discours que vous avez dans le monde arabo-musulman, c'est de dire, mais oui, mais l'attentat est odieux, c'est avec des problèmes d'un terroriste, mais c'est le discours que vous avez couramment dans les pays musulmans qui eux-mêmes font l'objet d'attentats meurtriers. Hein, par exemple, même l'Arabie Saoudite. Donc du coup, là, vous avez affaire, leur discours, c'est vous avez affaire à un terroriste qui a commis un acte irréparable et tout, vous n'allez pas faire payer tous les musulmans, la sensibilité des musulmans, sous prétexte qu'un terroriste ou d'un groupe de terroristes qui doit faire l'objet d'enquêtes, etc., d'être arrêté. Voilà, c'est un peu le discours que tiennent la plupart des gens dans le pays musulman, oui.
Alors en France, il y a la position du Conseil français du culte musulman. Elle semble un peu délicate parce que le CFCM est l'interlocuteur privilégié du gouvernement. Mais ce matin, son président Mohamed Moussaoui ne souhaite pas que les caricatures soient publiées à l'école. Il l'a dit sur France Info. On a l'impression, en fait, que le CFCM est tiraillé dans ce débat.
Il est tiraillé, mais par rapport aux publications, de toute façon, la sensibilité des musulmans, qu'elle soit celle de la minorité fondamentaliste ou voire même islamiste, on sait très bien que, donc d'accord, qu'effectivement ils s'y opposent, mais si vous voulez, c'est la sensibilité des gens dans les mosquées, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se révolter ou qu'ils vont, mais effectivement, il y a eu des échos qui ont remonté chez président du CFCM et des vice-présidents, bon, qui disent que effectivement les gens sont assommés et tout, et ils estiment que pourquoi sommes-nous encore les victimes alors que d'insultes contre la religion alors qu'il s'agit d'un acte terroriste. Ils sont un petit peu dans la même position que sont la plupart des musulmans dans les pays musulmans. Sauf qu'effectivement, ils ne vont pas sortir dans la rue, ils ne vont pas se révolter. Mais donc, le président Moussaoui, c'est quand même le président du Conseil français du culte musulman. Donc, en tant que responsable du culte, bon, il fait ça à minima, c'est-à-dire dire, bon, écoutez, moi, je ne souhaite pas que les caricatures soient publiées. Je m'y soumettrai si ça arrive, mais ne me demandez pas quand même d'accréditer, d'approuver cette publication de caricatures, cette publicité des caricatures auprès de jeunes. Mais c'est le déclaration minimum que tout dirigeant religieux, qu'il soit catholique, protestant, ferait sur la chose. Et effectivement, ça ne veut pas dire du tout que la sensibilité musulmane en France n'a pas été choquée par l'assassinat. Ils ont été choqués au même titre que les autres Français. Simplement, voilà, on est dans un domaine mouvant, on est dans la ligne de crête, quoi. Voilà.
Alors, parmi les mesures annoncées par le gouvernement, il y a la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France. Gérald Darmanin affirme que l'association est une officine islamique contre la République. Ce sont des mots très forts. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, c'est un peu délicat parce que le comité contre l'islamophobie en France, c'est vrai qu'il est né en 2003, est une officine qui est dirigée par des gens qui étaient dans la filiation qu'on dit frériste, qui n'étaient pas frères musulmans, hein, ou islamistes proprement dit, déclarés comme tels, mais dans la filiation de ce mouvement. Et si vous voulez, l'idéologie, si on peut dire, du CCIF, c'est de s'appuyer sur une islamophobie d'État, c'est vrai, depuis les débuts. Et donc, s'il y a d'islamophobie en France, c'est parce qu'il y a une islamophobie d'État. Donc, c'est un choix idéologique. Hein. Mais ce n'est pas un choix idéologique qui est dicté uniquement par une filière islamiste. C'est aussi un choix idéologique qui a été guidé par rapport à toute une mouvance qu'on connaît maintenant, on va dire la mouvance décoloniale, parce qu'on a assimilé l'islamophobie un petit peu à, c'est de la racialisation, et les musulmans sont racisés, comme on dit, et donc du coup, Voilà, il faut combattre, c'est l'État qui est responsable de cette racisation. Il accompagne, même la guide. Alors là, effectivement, c'était inadmissible. Moi, quand j'étais quand même en responsabilité, j'ai dit, il faut absolument pas employer ce terme d'islamophobie, parce que on va accréditer finalement toute une thèse. Et là, on rejoint, par exemple, la position de Erdogan, qui, depuis 20 ans, a toujours voulu, avec les dirigeants de l'AKP, être très présente sur le champ de l'islamophobie dans le monde. C'était un cheval de bataille qui, pour lui, effectivement, lui permettait de récupérer l'estime de l'ensemble des musulmans dans le monde, y compris en Occident.
Merci beaucoup à vous, Bernard Godard, d'avoir accepté cette interview dans le journal de France Culture. Et voici une information France Culture. Donc, après l'assassinat de Samuel Paty, les syndicats de professeurs et le cabinet du ministre de l'Éducation nationale continue de préparer la rentrée du 2 novembre. On en connaît le programme. Une rentrée qui se fera en 3 temps. Les élèves arriveront à 10 heures. Auparavant, un temps banalisé sera mis en place pour que les professeurs se retrouvent et se concertent. À partir de 10 heures, un moment d'échange et de partage aura lieu entre les élèves et les enseignants. Ce moment sera adapté en fonction des classes et ne se fera pas de façon stricte. Et enfin, un temps de recueillement est prévu à la mi-journée avec notamment 1 minute de silence qui prendra une autre forme pour les plus jeunes. Un nouveau conseil de défense ce matin pour évoquer la situation sanitaire en France. Le Covid poursuit sa progression malgré le couvre-feu et donc le gouvernement prépare un nouveau durcissement des restrictions. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour.
Alors quelles sont les hypothèses sur la table?
Le pouvoir exécutif est en train d'étudier les différents scénarios. C'est à ça qu'était consacré le premier conseil de défense qui se tenait ce matin à l'Elysée. À peser le pour et le contre et à ébaucher les grandes lignes de ce qu'Emmanuel Macron et le gouvernement devraient annoncer demain aux Français. Quoi qu'il en soit, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invité ce matin de nos confrères de France Inter, laisse entendre qu'il faut s'attendre à des mesures bien plus contraignantes que le couvre-feu à 21h actuellement en vigueur dans 54 départements.
Mais l'épidémie est difficile à contrôler. On aimerait tous la vie complète comme avant, mais il y a des moments où il faut prendre des décisions dures, et heureusement que le président de la République se soucie plus de sa responsabilité que de sa popularité. Il faut s'attendre à des décisions difficiles, je ne sais pas quelles seront-elles exactement, mais comme tous nos voisins.
Depuis hier, de nombreux médecins prennent la parole pour donner leur avis sur ce qu'il conviendrait de faire du strict point de vue sanitaire. Hier matin, sur RTL, le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, proposait 2 trajectoires, soit un renforcement et une extension du couvre-feu, soit un reconfinement ou des reconfinements territorialisés. Ce matin, sur BFM TV, le professeur Gilles Pialoux, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, était beaucoup plus catégorique.
Je pense qu'il faut reconfiner clairement le pays, reposer. Je suis désolé, mais il faut laisser de côté l'économie. C'est inadmissible. Les gens vont s'énerver à entendre ça, mais l'économie, c'est rattrapable. La réanimation loupée, c'est pas rattrapable.
Alors bien sûr, c'est une parole de médecin qui voit et considère l'urgence sanitaire avant tout. Le politique et plus précisément ceux qui nous gouvernent vont aussi prendre en compte les conséquences économiques de ce qu'ils vont décider, ainsi que les conséquences sociales et psychologiques. À ce stade, vu la progression galopante du virus et le risque de saturation des hôpitaux, on voit mal que pourrait être décidée une simple extension du couvre-feu, qui est l'une des hypothèses. Il faut plus vraisemblablement s'attendre à des reconfinements partiels, territorialisés en fonction des situations dans chaque département ou région, peut-être ciblé sur le week-end pour ne pas trop entraver l'activité économique. L'exécutif assure en tout cas vouloir tout faire pour éviter un reconfinement généralisé qui mettrait par terre notre économie et ferait basculer des centaines de milliers, voire des millions de personnes dans la précarité.
Et alors comment tout ça va se décider? À quel moment pourrait-on être fixé?
Eh bien le premier conseil de défense ce matin devait permettre de déterminer dans ses grandes largeurs l'option privilégiée. La consultation des forces politiques et des partenaires sociaux en fin de journée par le Premier ministre offrira l'opportunité d'écouter quelques objections et d'apporter quelques correctifs, autrement dit d'affiner un peu les choses. Un second conseil de défense demain matin, toujours à l'Elysée, devrait fixer le plan de bataille et les annonces devraient ou pourraient intervenir après le Conseil des ministres et donc au plus tôt demain à la mi-journée.
Effectivement, Emmanuel Macron envisage de prendre la parole dès demain. Évidemment, en ces temps troublés, le gouvernement surveille de près les indicateurs économiques et notamment les chiffres de l'emploi. Le chiffre de la matinée vient de tomber, celui du nombre de chômeurs en catégorie A au troisième trimestre. Annabelle Grelier, il est en baisse sur le trimestre et en hausse sur un an, une sorte de baisse en trompe-l'œil.
Oui, alors évidemment, Antoine, après une hausse historique et inédite de 24,5% du taux de chômage pendant le confinement, on assiste forcément à une baisse aussi donc conséquente de l'ordre de 11,5% pour les 3 mois ayant suivi le déconfinement, c'est-à-dire cet été, où toute restriction avait été levée et où de nouvelles n'avaient pas encore été posées. Bref, de toutes donc ces catégories, c'est la forte hausse en catégorie B et C qui est quand même à noter, plus 26,7% pour les demandeurs d'emploi en activité réduite. Forte hausse constatée également pour la catégorie D, liée cette fois-ci à la reprise des formations, plus 14,5%, mais là c'est le septembre. Le mois de la rentrée, jusque-là, ça reste du classique. Si l'on regarde les chiffres pour le seul mois de septembre, on constate une première baisse depuis le mois de mai du nombre de demandeurs d'emploi en activité réduite, moins 1,8%. À noter que chez les jeunes, le taux de chômage baisse de 2,8% en septembre, quand celui des seniors 50 ans et plus lui augmente, lui, de 0,7%. Mais bon, si on ne doit retenir qu'un seul chiffre, c'est malheureusement la hausse de 9,5% du taux de chômage sur l'année 2020, Antoine.
Merci à vous, Annabelle Grelier. Un mot pour terminer de la mosquée de Pantin. Sachez que le tribunal administratif de Montreuil a validé la décision ordonnée par le ministre de l'Intérieur de fermer pour 6 mois la mosquée, accusée par les autorités d'avoir relayé des propos qui ont conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Cet après-midi, temps maussade sur la majeure partie du pays, température stable, 11 à Lille, 17 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Julien Loquet. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.